Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Face au coronavirus, l'Italie ferme tous les commerces, sauf pour l'alimentation et la santé. Le président du Conseil italien l'annonçait tard hier soir, vous l'entendrez dans un instant. Vous comprendrez ensuite quelles sont les marges de manœuvre pour la Banque Centrale Européenne qui tient une réunion ce jeudi, alors que les États-Unis ferment leurs frontières aux étrangers venus d'Europe. En France, le bilan de ce coronavirus fait état de 500 personnes contaminées de plus qu'hier, plus de 2200 au total. Zoom tout à l'heure sur les salles de cinéma de plus en plus désertées. Et puis nous irons en Grèce à l'aube d'une visite de la présidente de la Commission européenne. Le New York Times accuse la Grèce de détenir des migrants dans des camps secrets. Sera-t-il possible d'aller plus loin encore en Italie? Le pays tout entier est placé en quarantaine depuis quelques jours maintenant. Il faut un certificat, par exemple, pour aller travailler. Toutes les activités sont annulées, des événements sportifs jusqu'aux sorties culturelles. Et puis, tard hier soir, le président du Conseil, Giuseppe Conte, a annoncé franchir un cap supplémentaire. Désormais, plus aucun commerce n'a le droit d'ouvrir en Italie. Écoutez Giuseppe Conte.
Ora. C'est maintenant le moment de franchir un pas de plus, le plus important. L'Italie restera toujours une zone unique, l'Italie protégée. Mais désormais, nous fermons aussi toutes les activités commerciales de vente au détail, à l'exception des magasins alimentaires de première nécessité, des pharmacies et des parapharmacies. Nous fermons les commerces, les bars, les pubs, les restaurants, les salons de beauté et de coiffure ferment aussi. Si nous respectons tous ces règles, nous sortirons plus vite de cette situation. Le pays a besoin de la responsabilité de chacun d'entre nous qui chaque jour font des petits et de grands sacrifices.
Des propos traduits grâce à notre correspondant à Rome, Bruce de Galzin. Autre mesure d'envergure, elle concerne cette fois les États-Unis qui interdisent à tout étranger venu d'Europe de se rendre sur leur territoire. Le président Donald Trump l'annonçait solennellement hier soir depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche. Cette suspension va durer 30 jours à partir de demain soir minuit. Seul le Royaume-Uni en Europe est épargné. L'administration recommande également aux Américains d'éviter de se rendre, eux, à l'étranger, déclenchant une nouvelle tempête sur les marchés financiers. Ce jeudi, la Banque Centrale Européenne pourrait annoncer des mesures de soutien. Car effectivement, une réunion du Conseil des gouverneurs de cette BCE est très attendue. D'autant que si elle ne peut pas prêter directement aux agents économiques en difficulté, la marge de manœuvre de la BCE semble plus étendue qu'habituellement. C'est le sentiment en tout cas de Clément Fontan, professeur de politique économique européenne à l'université de Louvain-la-Neuve.
Le choc que connaissent actuellement les marchés financiers ressemble véritablement au choc tel que décrit dans les manuels de politique monétaire, c'est-à-dire un choc externe qui est aussi asymétrique, qui touche certains secteurs et certains pays plus que d'autres, et ce n'est pas finalement les vices du système financier qui ont provoqué ce choc, donc on est vraiment dans une situation différente de 2007, parce qu'il y a moins de le stigma de la faute morale qui est associée aux difficultés du pays. Finalement, que les Italiens connaissent aujourd'hui un pic plus important de l'épidémie du coronavirus dans leur pays, c'est pas lié à leur comportement économique passé, tandis qu'il y avait toujours ce stigma qui existait lors de la crise financière de 2007, que finalement les pays en situation de difficulté financière, en quelque sorte, l'avaient bien cherché, n'avaient pas fait les réformes nécessaires, etc., etc. Et ça, ça menait à des tensions morales qui contraignaient beaucoup la BCE, qui devait faire très attention à ces affrontements et divisions entre le nord et le sud de l'Europe. Aujourd'hui, on est dans une situation différente. Donc ça va peut-être aussi pouvoir mener la BCE d'arriver à faire des interventions plus différenciées en fonction de la situation spécifique des pays.
C'était Clément Fontan de l'université de Louvain-la-Neuve avec Marie Viennot. Quelle situation justement en France en ce moment? Hier soir, le bilan officiel s'est alourdi, 48 morts et plus de 2280 personnes contaminées. Le virus circule de plus en plus activement et dans des territoires de plus en plus nombreux, a déclaré Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Un nouveau foyer a notamment été détecté hier à l'est de Montpellier. Les crèches et les écoles de 16 communes resteront donc fermées jusqu'à la fin du mois. Idem en Corse. commerces. Et par ailleurs, les visites dans les EHPAD, visites aux personnes âgées, sont désormais suspendues sur tout le territoire. On ne compte plus également le nombre d'événements sportifs ou culturels annulés, reportés en raison du coronavirus ces derniers jours. De nombreux films, par exemple, repoussent leur date de sortie. De quoi inquiéter les distributeurs. Erwan Escoubet de la Fédération nationale des cinémas français était l'invité de Laura Dulieu lors du journal de 22h hier soir sur France Culture.
On est dans une situation en fait qui est variée selon les départements français, puisqu'il y a 3 départements qui sont en situation d'alerte par rapport au virus. Dans le Morbihan, il y a 2 salles de cinéma fermées. Ce sont les 2 salles de cinéma d'ailleurs fermées dans toute la France. Et 2 salles de cinéma ouvertes à 50% et toutes les autres salles sont pleinement ouvertes. Dans l'Oise, toutes les salles sont ouvertes, mais uniquement à 50% de leur capacité. C'est la mesure prise par le préfet. Et dans le Haut-Rhin, c'est une mesure encore différente qui a été prise, qui est seulement 50 personnes par salle d'un même cinéma. Donc forcément, pour ces salles, c'est une situation qui est plus compliquée à gérer, puisqu'elles ne peuvent pas fonctionner pleinement. On craint tous, effectivement, un très mauvais retour économique. D'abord, il n'y a pas d'assurance possible. Il n'y a pas d'assurance en termes de perte d'exploitation pour ces salles de cinéma, puisque les clauses des assurances ne le permettent pas dans les cas de risque épidémiologique, dans les cas de fermeture administrative, ou quand une perte d'exploitation n'est pas due à un dommage matériel, donc il ne peut pas y avoir d'assurance là-dessus. Nous, Fédération des cinémas, on a contacté l'ensemble des pouvoirs publics, le ministère de la Culture, le CNC, le ministère de l'Économie et du Finance, le ministère du Travail, pour alerter sur notre situation, je pense comme d'ailleurs d'autres secteurs économiques, parce qu'on aura besoin de mesures d'urgence pour nous soutenir dans cette situation.
Et face au coronavirus, est-ce une crise économique qui a lieu en ce moment ou un changement de modèle? La question sera posée à partir de 7h40 tout à l'heure par Guillaume Erner à ses invités. Et par ailleurs, retrouvez chaque jour l'essentiel des découvertes, des explications, des décryptages à propos de ce coronavirus avec le podcast de France Culture intitulé « Radiographie du coronavirus ». Selon le New York Times, la Grèce aurait, à la frontière terrestre gréco-turque, monté un camp secret où seraient détenus, le temps de leur renvoi, les migrants qui ont réussi à passer la frontière turque clandestinement. Athènes nie fermement les faits, parle de provocation turque, mais le New York Times persiste, Angélique Kourounis.
Les informations du quotidien américain se basent sur un témoignage d'un Syrien qui y aurait été détenu et renvoyé en Grèce après avoir été dépouillé de tous ses biens et battu. Selon cet homme, il y a dans ce camp, près du village de Poros, au nord-est de la frontière, 2 bâtiments, un pour les femmes et les enfants, un autre sans toit pour les hommes, où il y aurait été détenu 24 heures sans pouvoir déposer une demande d'asile. Il est difficile de Grèce de vérifier cette information, mais ce qui est certain, c'est que les renvois illégaux en Turquie de réfugiés, que ce soit en mer ou à la frontière terrestre, sont régulièrement dénoncés, tant par les ONG que par les réfugiés eux-mêmes qui y ont échappé. Tous dénoncent également des mauvais traitements, des violences et des vols. Quant au refus de la demande d'asile, le gouvernement conservateur Mitsotakis l'a rendu légal pour tous les migrants arrivés en Grèce depuis le 1er mars dernier, en opposition avec toutes les lois internationales.
Des témoignages venus de Grèce donc qui n'ont pour autant pas fait fléchir le soutien de l'Union européenne envers Athènes. D'ailleurs aujourd'hui, la présidente de la Commission européenne est attendue dans la capitale grecque. Ce jeudi également, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, se rend en Algérie. Il souhaite y renouer les rapports de coopération avec ce pays d'Afrique du Nord. C'est pour cela d'ailleurs qu'il se rapproche du nouveau gouvernement dans une Algérie, Omar Ouaman, marquée depuis un an par des mouvements sociaux.
C'est la deuxième visite à Alger de Jean-Yves Le Drian depuis l'élection d'Abdelmajid Tebboune. La première en janvier avait permis d'acter une convergence de vues, notamment sur le plan économique. Plusieurs mécanismes vont être renforcés, comme le COMEFA, le comité mixte économique franco-algérien, le premier de l'ère Tebboune, le 6e depuis 2013. C'est le moteur des relations économiques entre les deux pays. Les précédentes sessions avaient débouché sur la signature de plusieurs accords dans de nombreux domaines comme l'agroalimentaire, l'automobile, la santé ou les transports. Jean-Yves Le Drian devrait profiter de cette nouvelle rencontre pour appeler les hommes d'affaires français à investir davantage de l'autre côté de la Méditerranée. Mais cette visite, la première depuis la crise du coronavirus, sera l'occasion d'échanger sur les moyens d'endiguer l'épidémie. En Algérie, tous les rassemblements sportifs, culturels et politiques sont annulés. Le pays compte actuellement 20 cas confirmés, dont 17 membres d'une même famille en lien avec des cas chez des ressortissants algériens en France.
C'était Omar Waman pour France Culture. L'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein, coupable de viol et d'agression sexuelle, a été condamné hier à 23 ans de prison. Une lourde peine outre-Atlantique à caractère exemplaire dans un monde où la parole des victimes se libère peu à peu. En France, de la pluie et de la grisaille sont prévues ce matin de l'Atlantique jusqu'au Grand Est. Quelques gouttes également dans l'après-midi sur le Nord-Ouest et puis à l'opposé en revanche sur le Sud-Est. Le soleil sera encore bien présent avec ce matin 10 degrés à Lille, 11 à Nantes, 12 degrés à Paris, 14 à Strasbourg et Bordeaux, 19 degrés à Perpignan.